France Musique. Tour de chant, Martin Penet.
Aujourd'hui, François Morel et Jean-Noël Jeannonet, première partie. Cette semaine, Tour de chant aura une saveur un peu particulière car je reçois deux invités de marque, Jean-Noël Jeannonet et François Morel. Vous semblez de prime abord bien différents, mais vous êtes en réalité reliés par un même amour de la chanson et un travail commun que nous allons évoquer. Je suis donc ravi de vous recevoir tous les deux sur France Musique pour une rencontre placée sous le signe de l'amitié et de la chanson. Ce qui a suscité l'envie de faire cette émission maintenant, c'est d'une part la carte blanche qui sera donnée à vous, François Morel, prochainement à la Scala, salle historique du boulevard de Strasbourg, qui a été reconstruite et rouverte en 2018 comme un théâtre consacré aux arts de la scène, à la musique et aux arts visuels français et internationaux. Et cette carte blanche, elle aura lieu du 14 mai au 23 juin prochain pour une reprise de trois de vos spectacles. Et d'autre part, la publication, il y a quelques mois, d'un ouvrage insolite, Chansons pour mémoire, réunissant 18 textes de chansons signés par Jean-Noël Jeannonet, mis en musique par Antoine Salaire et interprétés par plusieurs comédiens, dont François Morel. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Le brutal douanier, soudain surgissant, saisit ma valise en la renversant. Et mes souvenirs, partout sur le sol, furent éparpillés. Le violent douanier, soudain menaçant, lorsque j'essayais, blessé, tâtonnant, tout autour de moi, de les rassembler, me fit trébucher. Le cynique douanier, soudain ricanant, dit que l'inédit seul était puissant, et que tout regard nourri du passé était embrumé. Le pauvre douanier, soudain s'étonnant, que sa barrière ne put aucunement arrêter le flux des fidélités, fut désemparé. L'imbécile douanier, soudain titubant, fut catapulté par un flot puissant parmi les naïfs qui s'imaginaient tout recommencer. Et j'ai rassemblé, heureux, soulagé, les morceaux démantibulés des bagages de ma mémoire.
C'était donc Pauvre douanier, chanson de Jean-Noël Jeannonet interprétée par François Morel et qui fait partie de cet ouvrage Chansons pour mémoire. Et j'aimerais savoir, Jean-Noël, si dans toutes ces chansons, il y a une dimension vécue, voire autobiographique.
Ah, grande question. Je laisserai volontiers l'auditeur fervent, parmi les ferventes, il faut dire maintenant, le fervent et les ferventes se débusquer. Ils pourront voir mes mémoires et aller chercher peut-être telle ou telle source de ces chansons. Mais je trouve non seulement indécent, mais imprudent de révéler ce que vous me demandez de révéler. Je ne vous en fais pas reproche. Vous avez bien essayé.
Voilà, j'ai essayé. Il fallait que j'essaie. Avec un titre pareil, Chanson pour mémoire.
Mais pour moi, c'est la mémoire de l'histoire aussi. C'est vraiment l'historien qui parle. C'est pourquoi j'ai eu envie d'évoquer, de faire une sorte de philippique contre les chevaliers de l'inédit. Vous savez, ceux qui disent tout recommence toujours, les obsédés de l'immédiat. Et de dire qu'on ne peut pas, en vérité, réfléchir comme citoyen et peut-être profiter de l'héritage musical si tout à coup on dit que rien n'est comme avant. Et si on ne prend pas en compte tout ce qui perdure tout en profondeur et qui, finalement, illustre une culture, notamment musicale.
François Morel, j'aimerais savoir quelles sont les chansons qui vous ont nourri.
Je crois que ce sont les chansons de Brassens. J'ai connu Moustaki, non, Brassens par Moustaki. Je suis allé voir un concert de Moustaki en, je crois que c'était en 71, donc j'avais 12 ans et j'étais allé avec mon frère et ma sœur. Et c'était un concert qui m'avait absolument enthousiasmé. Je crois que 40 ans plus tard, j'ai dit ça à Georges qui m'a le lendemain envoyé un mail en me disant voilà l'article de West France qui correspond à la soirée que tu avais vécue. Donc c'était assez marrant de se dire que Moustaki était un poète extrêmement organisé. Alors je dirais Brassens, Moustaki et puis Barbara et puis plein d'autres.
Oui, la liste est longue, j'imagine.
Ouais,
mais
ouais,
c'est
ouais.
Là, c'est ceux qui vous viennent spontanément.
Oui, c'est ceux qui me viennent spontanément. Il y a forcément Traîné, puis il y en a d'autres. J'avais vu Maurice Fanon quand j'avais une dizaine d'années aussi dans mon petit village, et j'avais adoré l'écharpe, par exemple. Et puis, j'ai connu aussi Francesca Solville, Marc Augeret, enfin tous ces gens-là, je les ai vus chanter dans mon petit village, et j'adorais les découvrir, surtout qu'on était dans une proximité absolue, et c'était émouvant d'entendre ces gens-là.
Et vous, Jean-Noël Jeannonnet, quelles seraient les chansons qui vous ont le plus nourri ?
On les entendait aussi dans la grande ville, pas seulement dans les petits villages. Et au fond, je retrouve beaucoup des noms que François Morel vient de citer. Brassens, c'était très important. Traîné aussi en arrière-plan, mais peut-être un peu moins que Brassens. Et puis, peut-être celle que je mets au-dessus de tout, c'est-à-dire Barbara. L'autre jour, dans mon émission, j'ai consacré un moment, même j'ai consacré une émission sur le thème Barbara et la citoyenneté, la cité, en quoi elle est intervenue avec un mélange de détermination et de réticence dans les choses qui étaient débattues politiquement et autres. Je vous ai rappelé Göttingen en particulier, qui a joué un rôle notable dans le rapprochement franco-allemand, en termes symboliques bien sûr, mais peut-être aussi en termes concrets, dans l'esprit des jeunes générations.
Alors à présent, François Morel, est-ce que vous pourriez me donner une définition de la chanson ?
Bon, bah, je suis pas content très... que ce soit vous et pas moi.
Ouais. Ah, mais vous aurez droit aussi, Jean-Noël.
Je ne sais pas. Pour moi, ce n'est pas tout à fait de la poésie, ce n'est pas tout à fait de la musique, c'est un mélange des deux. C'est tellement rare, une belle chanson, et on ne sait pas très bien non plus. Pour moi, une belle chanson, elle reste mystérieuse. On ne sait pas pourquoi tout d'un coup, quelques mots... font qu'on est extrêmement ému. En tout cas, ça marque infiniment le temps passé. Je crois qu'en vieillissant, on est nostalgique même de chansons qu'on n'aimait pas forcément à l'époque, mais qu'on redécouvre les années passant. Donc pour moi, ce sont des marques de temps.
En tout cas, vous l'avez chanté très joliment, je trouve, en 2016, dans un titre qui s'appelle « Populaire ».
Ah oui.
C'est un vers de Hugo, un refrain de Dimé, un pichet de Bordeaux, un verre de Muscadet. C'est une glace à l'eau qui goûte sur ta main, une baraque à frites sur la place à Tourcoing. Dans l'auto tamponneuse, un couple qui s'enlace, un enfant sous la pluie qui retire ses godasses. Le 14 juillet et les flonflons du bal, des confettis jetés un soir de carnaval. Juste quelques notes, une rime idiote, ça n'a rien d'ordinaire. Un refrain tout bête qui trotte dans la tête, ça n'a rien de vulgaire. Pardon, y a pas plus chic qu'une chanson populaire. C'est parfois quelques mots, c'est parfois un adage, un poème chanté sur les échafaudages. C'est les congés payés, les premières vacances, un voyage à vélo vers l'estuaire de la Rance. C'est une tranche de pain et du saucisson sec, un film pas programmé à la Cinémathèque. Sous le grand chapiteau, l'orchestre joue un air pour un public conquis et des cœurs solitaires. Juste quelques notes, une rime idiote, ça n'a rien d'ordinaire. Un refrain tout bête qui trotte dans la tête, ça n'a rien de vulgaire. Tu sais, y a pas plus chic qu'une chanson populaire. Je sais bien que souvent on galvaude le mot lorsque les populistes flattent le populo. Quand on confie des fleurs aux soins des technocrates, au mépris du public, on parle d'audimat. Comme on prendrait l'amour pour de la bagatelle, on confond l'auditoire avec la clientèle.
Alors François Morel, vous êtes acteur, metteur en scène, humoriste, essayiste, chroniqueur de radio sur France Inter et aussi chanteur.
Ouais.
Ça fait beaucoup de choses.
Homme de spectacle, en fait. Je joue essentiellement et j'écris de temps en temps ce que je joue. Mais finalement, je change de support, mais c'est toujours un peu le même métier pour moi.
Vous avez commencé par une formation de comédien. Vous avez intégré en 1989 la troupe des Deschiens de Jérôme Deschamps et Macha Makeyev, qui a été transposée à la télévision en 1993. Et ça vous a valu le début de la célébrité, on peut le dire.
Une petite célébrité, oui.
Et alors, depuis cette époque, vous avez joué dans une bonne soixantaine de films, une cinquantaine de téléfilms. Vous avez publié 25 ouvrages et dans vos chroniques radiophoniques, vous mettez votre verve poétique au service de l'humour et de causes sociales ou sociétales qui vous touchent. Et Télérama dit d'ailleurs que vous êtes un consensuel et progressiste raisonnable.
Ah bon, c'est pas. Sérieux, je cherche pas à me définir, mais surtout j'ai des humeurs. Alors de temps en temps, je suis comme ça, un peu raisonnable, mais je peux avoir des. J'espère que j'ai des petites folies de temps en temps quand même.
Mais alors, finalement, François Morel, c'est à mon sens, c'est quand même le théâtre, votre première passion, qui vous révèle le plus. Et parmi vos nombreux spectacles, certains font une place à la chanson.
Ouais, mais c'est-à-dire que quand j'étais adolescent, je crois que j'hésitais entre être chanteur et comédien. Et alors j'essayais de m'accompagner à la guitare, mais j'avais beaucoup trop mal aux doigts quand j'essayais de me mettre sur les cordes, il me faisait mal. Alors, donc je me suis dit, il faut pas que je sois chanteur. Donc j'ai été comédien, je me mettrais debout et puis je dirais des textes. Et j'ai commencé comme ça, mais ça a toujours été un goût pour la chanson aussi. J'adore. Je crois, j'avais un vieux copain qui me disait que j'étais un type laconique. Et en fait, le fait de pouvoir raconter une histoire en 3 minutes dans une chronique ou dans une chanson, ça me va bien. J'aime bien des fois plus suggérer que dire.
En tout cas, cette aventure chantée, elle a commencé réellement en 2006.
Elle a commencé grâce à Reinhard Wagner, qui est un musicien notamment qui est de théâtre et de cinéma, et il m'avait proposé de chanter des chansons de Roland Topor, et j'adorais ces chansons. C'était des très beaux textes surréalistes, très bien écrits, et les mélodies de Reinhard étaient formidables. Mais à l'époque, je lui ai dit, mais je ne suis pas chanteur, donc je ne saurais pas défendre ce répertoire-là. Mais je lui ai dit, j'aimerais bien essayer d'écrire des chansons. Donc je me voyais plus comme auteur de chansons que comme chanteur à ce moment-là. Et puis quand on en a écrit un certain nombre, c'est venu aux oreilles de Jean-Michel Ribes qui m'a dit « Mais pourquoi tu viendrais pas les chanter au Théâtre du Rond-Point, dans la petite salle Jean Tardieu, il y a 200 places et ça serait bien que tu fasses ça avec Reinhard ». Et je lui avais dit « Oui, je veux bien si tu me mets en scène ». Comme ça, je m'étais dit « Si vraiment le chanteur que je suis est trop épouvantable, le comédien essaiera de sauver la soirée ». Et puis, j'ai pris goût et j'ai écrit d'autres chansons. J'ai rencontré Antoine Salaire.
Ça, on va y venir.
Quelques années plus tard, et j'ai continué donc cette veine.
Alors, ce premier spectacle de 2006 au Rond-Point, qui s'appelait Collection particulière, a donné lieu à un album.
Ouais.
Et dans cet album, il y a une chanson que j'aime particulièrement, Hôtel Beau Rivage.
C'est sur le livre d'or de l'Hôtel Beau Rivage qu'un ancien général inscrit mes hommages. Une vieille a écrit d'une main qui tremblait, merci de tout mon cœur, recevez mes pensées. Merci pour votre accueil et votre gentillesse, a noté une dame en laissant son adresse. Je souhaite qu'au plus tôt nous puissions revenir, à signer un monsieur et meilleur souvenir. Quel dommage vraiment qu'il ait fait mauvais temps, nous aurions profité d'un séjour si charmant. C'est sur le livre d'or de l'hôtel Beau Rivage. L'enfant sagement dessine des nuages. Un certain Jean-Baptiste indique en bas de page combien il s'est fait chier à l'hôtel Beau Rivage, précisant justement et plusieurs fois encore qu'il a passé des jours un peu comme un rat mort. Il y a souvent des mots d'inspiration banale, mais quelquefois aussi des phrases originales. J'ai baisé comme un fou, signé Alain Decaux. L'écriture est gracieuse, mais c'est hélas un faux. Nous ferons, croyez-le, souvent votre réclame. Merci, tiens, c'est signé Jean-Paul II et Madame. C'est sur le livre d'or de l'hôtel Beau Rivage qu'un enfant sagement gribouille ses nuages. Il y a un autographe aussi de Michel Blanc qui sobrement a mis, bien amicalement, puisque le livre d'or a signé un Narquois, eh bien je vous en prie, ne le réveillez pas. Je suis venu ici pour la première fois, un jour de canicule en juillet 63. Le décor a changé, mais j'ai tout reconnu, note un représentant encore un peu ému. La vie s'écrit ainsi, ordinaire, illisible, convenue, insolente, en colère ou paisible. C'est sur le livre d'or de l'hôtel Beau Rivage qu'un enfant sagement déchire ses nuages.
L'hôtel Beau Rivage, François Morel en 2006, extrait de votre premier spectacle, collection particulière, premier spectacle chanté, je précise. Est-ce que vous la chantez encore, cette chanson ?
Oui, assez régulièrement. Et je la chante plus lentement, il me semble. Et seulement avec un accompagnement, souvent au piano, d'Antoine Saler. Et il rêve avec moi autour de cette chanson. Donc il y a un truc plus détendu.
Mais quel beau symbole, en tout cas, que le livre d'or d'un hôtel pour marquer la mémoire, ouais. La mémoire d'un lieu, en l'occurrence.
Le temps qui passe, des émotions qui sont réunies dans un lieu, vous voyez, des banalités, puis en même temps, parfois des petites fulgurances, de l'humour, un mélange comme ça de la vie. Et puis moi, j'aime bien le mélange des genres, d'une manière générale. J'aime bien que dans cette chanson-là, on puisse être un peu ému, et puis aussi qu'il y ait un éclat de rire au milieu.
Et finalement, ce genre de chanson montre l'importance du travail sur la mémoire qui vous tient à cœur aussi, Jean-Noël Jeannet. C'est une composante importante de votre inspiration.
Oui, oui, bien sûr. Je suis historien, on ne se refait pas, et j'aime ce métier. Mais je pense qu'il y a un plaisir singulier à aller s'amuser dans d'autres champs que celui des ouvrages traditionnels avec des notes en bas de page. Je ne les méprise pas, j'en ai écrit plusieurs. Mais j'ai depuis longtemps envie de montrer que l'histoire, elle appartient à tout le monde. Il y a d'ailleurs des universitaires qui ne sont pas de bons historiens et d'excellents amateurs, je dirais entre guillemets amateurs, qui sont très très bons. Et notamment, j'ai eu envie de faire du théâtre, j'en ai fait, et puis j'ai eu envie d'écrire des paroles de chansons.
François Morel, après ce spectacle, le premier de 2006, vous en avez fait un deuxième en 2010, toujours au Théâtre du Rond-Point, Le Soir des Lions.
Le Soir des Lions, mais là on était passé sur la grande scène du Théâtre du Rond-Point, et puis j'avais quatre musiciens avec moi, je crois. Et alors, c'était mise en scène de Juliette. Et
votre complice aussi.
Oui, oui. Et puis là, l'arrivée d'Antoine Saler.
Voilà, ce spectacle en 2010 a marqué la rencontre avec Antoine Saler, parce qu'il y avait encore des musiques de Reinhard Wagner.
Ah oui, donc ça veut dire qu'on se connaît au moins depuis 15 ans, alors ça veut dire. Parce que d'habitude je dis 10 ans. Mais donc, c'est au moins 15 ans, moi, très bien.
Et alors, la rencontre avec Antoine Saler, parce qu'elle a été déterminante.
C'est grâce à Juliette. C'est grâce à Juliette. J'avais participé à une émission sur France Musique, d'ailleurs, qui est d'Ariel Buteau, le mardi idéal. Et puis, Antoine et moi étions invités de Juliette. Et on avait déjà beaucoup ri ce soir-là. Et puis, on avait été invité peu de temps après à participer à son Olympia, puisqu'Antoine faisait la première partie. Et moi, je faisais un duo, Mes mères dans les orties avec Juliette. Et j'étais allé vérifier. Comme j'étais plus connu que lui, j'étais allé vérifier que la bouteille qu'il avait dans sa loge était inférieure en qualité à la mienne. Et c'était bien le cas. Donc, j'étais ravi.
Excellent départ.
Ben oui. Et lui, ça l'a fait rire. Donc, on s'est dit qu'on pouvait être copains.
Il y avait aussi le trac qui vous réunissait, je crois.
Le trac, oui. Oui, bien sûr. Oui. l'un autant que l'autre, oui.
En tout cas, à partir de ce moment-là, Antoine Salaire a commencé donc à composer des musiques sur vos textes. Ça a donné lieu donc à une partie de ce spectacle Le Soir des Lions. Et puis après, ce spectacle, il est devenu pratiquement votre compositeur exclusif.
Quasiment, oui. Oui. Il y a toujours des chansons de Reinhardt. Il y a eu une chanson de Louis Chédid, une musique de Louis Chédid dans... Quand on fait des petits récitals comme ça, parce que de temps en temps, maintenant, en fait, j'aime bien aussi. C'était très théâtralisé ce qu'on faisait au départ dans le Soir des Lions, La Vie titre provisoire, qui sera le troisième spectacle. À chaque fois, je demandais à quelqu'un de faire la mise en scène, et puis je cherchais un peu toujours des idées, tout ça. Et puis j'aime bien aussi le côté direct de la chanson, c'est-à-dire arriver dans un petit lieu et puis venir avec 3-4 musiciens s'il y a un peu d'argent, mais s'il n'y a pas beaucoup d'argent. Et pas beaucoup de place, on est juste Antoine et moi. C'est ce qu'on a fait à Troyes, là, dans un petit lieu à Troyes, là, il n'y a pas très longtemps. Et c'est aussi extrêmement agréable et de pouvoir changer d'un soir sur l'autre, de se dire tiens, on va plutôt commencer par cette chanson-là et on va abandonner cette autre. Et puis, on va faire la marche nuptiale de Brassens parce que ça nous fait plaisir ce soir-là de la chanter. Voilà, de pouvoir composer à chaque fois un nouveau répertoire.
C'était comment déjà, le crâne avec cheveux, sans lunettes les yeux, c'était comment déjà, la bouteille de Bordeaux, sur la nappe à carreaux, la nuit sous les étoiles, le claquement des voiles, le parfum des lilas, la soupe au tapioca, le civet, la blanquette, le goût des cigarettes. Les yeux qui brillent, le cœur qui bat. C'était comment déjà, c'était comment déjà. Le goût des filles et du nougat. C'était comment déjà. C'était comment déjà, la grasse matinée. Les enfants dans le lit qui réclament un baiser. Les larmes et les cris, tourbillon de la vie, le soleil de l'été, la Méditerranée, le rosé dans les verres, les deux pieds dans la mer, le baiser qui tient chaud, le soleil sur la peau, les yeux qui brillent, le cœur qui bat. C'était comment déjà? C'était comment déjà? L'odeur des filles et du lilas, c'était comment déjà? C'était comment déjà? Sous le grand chapiteau, un chien sur son vélo qui fait son numéro. Ressentir la chaleur sous deux, trois projecteurs, se croire un peu utile en faisant l'imbécile. C'était comment déjà? C'était comment? Ah, mais... C'était comment déjà? Quand on ferme les yeux, comme on dirait adieu aux filles et aux nougats.
C'était comment déjà, François Morel, texte et interprétation, avec une musique d'Antoine Salaire, une des premières, donc en 2010.
Et je crois que c'est celle qui concluait le deuxième tour de chant, donc, oui.
Ouais, et qui s'appelait donc Le Soir des Lions. Et ce spectacle était un peu plus engagé, je dirais, que le précédent.
peut-être.
Il y avait des thèmes un peu de société qui vous tiennent à cœur.
Oui. Il y avait une chanson d'ailleurs politique qui était un peu anti-sarkozyste. Mais je crois pas non plus que c'était ma meilleure chanson. Et je ne la chante plus parce que là, pour le coup, elle n'est plus d'actualité.
Plus du tout.
Bon, en tout cas, donc là, on a eu un deuxième spectacle entièrement chanté. Après quoi, vous avez fait avec Antoine Salaire des spectacles de théâtre où la musique était présente, mais de façon moins omniprésente, j'ai envie de dire. Donc, la fin du monde est pour dimanche en 2012 et Hyacinthe et Rose en 2014.
Ouais. La fin du monde et pour dimanche sont beaucoup de textes que j'avais écrits pour la radio et que j'ai transformés en textes de théâtre. Et il y avait une chanson d'ailleurs, une chanson qui n'existe que dans ce spectacle-là et que j'aimais bien d'ailleurs, et qu'on a un peu oublié, qu'on devrait reprendre, je lui en parlais. Et après, Hyacinthe et Rose, c'était un album que j'avais fait avec un peintre qui s'appelle Martin Jarry et qui était une évocation d'une enfance à la campagne où chaque souvenir d'enfance était associé à une fleur. Et on en avait fait, ça a commencé par une lecture et puis c'est devenu un spectacle au fur et à mesure. Parce que la musique était extrêmement présente et très belle. Et puis il y avait des évocations de chansons, notamment Qui peut dire où vont les fleurs, du temps qui passe.
Et alors, vous, François Morel, vous avez écrit des chansons pour d'autres interprètes.
Un tout petit peu pour Morane. On avait écrit deux chansons dans l'un de ses derniers disques. Et pour Gréco, elle avait fait un disque sur les ponts et elle nous en avait commandé une et on l'avait écrite avec Antoine assez librement d'ailleurs. C'était, je crois que ça faisait plusieurs fois qu'à chaque fois que Gréco préparait un disque, on avait un appel en nous disant Juliette aimerait beaucoup vous lui écriviez une chanson, ce qui était très impressionnant. Et je crois que je mettais trop de sens, trop de fond, et en fait si elle me demandait, moi, c'était sûrement pour apporter un peu de légèreté. Et un jour, je me souviens, avec Antoine, on était en tournée à Toulouse et on s'est donné rendez-vous à 18h et on s'est dit à 20h, il faut qu'on soit dans un bistrot à prendre l'apéritif et qu'on ait écrit le texte. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, on l'a écrit très rapidement. Et c'est cette chanson-là qui avait plu à Juliette Gréco.
Mais souvent, c'est une bonne recette pour les chansons, celles peut-être qui viennent comme ça, d'un jet.
Ouais.
Après avoir...
Il ne faut pas y penser trop. Ouais,
mais... Parfois, c'est le résultat d'une longue maturation, mais
peut-être.
Parfois, c'est bien comme ça.
Vous saurez que je n'ai mis qu'un quart d'heure à le faire, dit Oronte, mais je ne vous rapproche pas d'Oronte. Propos sont sonnés dans Molière, dans le Misanthrope. Je n'ai mis qu'un quart d'heure à le faire. Vous avez mis 2 heures tout de même.
Ah bah oui. On était deux, c'est plus compliqué.
Tu es un peu lent.
Ouais.
Et vous, Jean-Noël Jeannet, vous mettez combien de temps à écrire vos chansons?
Je ne sais pas. Je les pose sur la table, je les écris, je les reprends. Ce n'est pas un travail continu, donc je ne saurais pas vous répondre en vérité. Certaines, je peux dater le moment où l'idée m'en est venue, c'est vrai. Par exemple, celle que vous chantez si bien, le pauvre douanier qui essaye d'empêcher le passé de faire éruption. Je me rappelle l'avoir écrit en moment d'attente, au moment du festival du film historique de Pessac, que nous avions fondé il y a 40 ans avec Alain Rousset, et qui est un moment précieux. Par une malheureuse circonstance tournée bien, on s'était trompé de rendez-vous, m'avait laissé tout seul pendant 2 heures, et j'ai eu envie d'écrire cela. Je ne savais pas à ce moment-là que...
Donc ça, c'est quelques années déjà, ce texte?
Ah oui, il y a une dizaine d'années déjà. Oui, je l'avais mis de côté sans croire vraiment que je ne pourrais jamais trouver le magicien qui les mettrait en musique, jusqu'à ce train partagé, bien heureux, cher François Morel.
François Morel, si on continue à dérouler un petit peu le fil de vos spectacles musicaux, en 2016 arrive La vie, titre provisoire, mise en scène par Juliette, créée à La Rochelle puis à Paris, toujours au théâtre du Rond-Point. Et une des chansons marquantes de ce spectacle s'intitule tout simplement La vie, la vie, la vie.
Début des cris et puis le silence, quand ça disparaît comme par magie, on ne sait jamais pourquoi ça commence, on ne sait pas plus pourquoi ça finit. Au début du film, on est dans la brume, on met le nez dehors, on attrape un rhume, on sait rien du tout, même pas son nom. Ça finit un peu en queue de poisson. La vie, 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 la vie. La vie, la vie. Au début des cris et puis le murmure d'une voix fragile qui soudain se tait. On ne sait jamais combien tout ça dure. Une éternité, le temps d'un café. Parfois ça renonce, parfois ça s'agrippe. Ça peut s'arrêter à cause d'une grippe. Parfois ça construit en dessous des bombes. Ça peut rigoler un pied dans la tombe. La vie, 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 la vie. La vie, la vie. On écrit des livres, on invente des dieux. C'est qu'on voudrait bien une explication. On rêve d'un ailleurs, d'un paradis tout bleu, pour jouer un peu les prolongations. On hésite encore sur l'emploi du temps. Être Marilyn ou bien Jeanne Calment. Comme quand surgit la fin des vacances, on serait pas contre que ça recommence. La vie, 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 la vie. Et puis, le silence.
François Morel, sur cet album La Vie, titre provisoire, il y a également un duo qui figure avec Louis Chédid sur une chanson sur les rêves de l'enfance.
Ah oui. Ah ben oui, ça, mais alors ça, c'était pas Louis qui devait la chanter au départ. Ça aurait dû être Hubert Mounier, le chanteur de l'affaire Louise Trio, et qui nous a quittés 15 jours avant l'enregistrement de cette chanson-là. Et j'ai eu Louis Chédid au téléphone et je lui exprime ma tristesse et mon désarroi. Et dans la conversation, je lui dis « Tu veux pas la chanter avec moi ?» Il me dit « Oui, bien sûr. » Donc je lui ai envoyé et il l'a chanté. Pour moi, c'est un hommage à Hubert Mounier. En fait, Hubert, dans les années 90, devait regarder Les Deschiens et m'avait proposé de venir chanter avec l'affaire Louise Trio au Francofolie dans les années 90. Et je lui avais dit « Oui, oui, je veux bien chanter avec toi, mais si on fait une chanson ensemble ?» Et donc c'était la première chanson que j'avais faite avec lui, je lui avais porté le texte, il avait un petit peu remanié, il avait fait une musique, voilà.
Alors comme vous aimez bien les duos, François Morel, on trouve également sur cet album un duo avec votre musicien Antoine Salaire. Et là je trouve que c'est bien qu'il soit présent dans cette émission. La chanson en question s'appelle...
Des trucs inutiles.
Voilà, ouais. Trucs inutiles, une sorte d'inventaire à la Prévert, et revisité par vous deux.
Voilà. Et que, ça qu'on fait. Mais je crois que c'est une chanson uniquement d'Antoine, celle-là.
La date de naissance d'Adamo,
1er novembre 43. Le nom du chien de Belmondo,
Pini.
La taille du général de Gaulle,
1m87.
Le plat préféré d'Helmut Kohl,
le rôti de bœuf mariné.
Le nom de mon ancien collège,
Sainte-Marie-la-Flaire. Les sous-préfectures de l'Ariège,
Saint-Giron-Pamiers.
La pointure de ma tante Gisèle,
elle fait du 47.
La densité de la Rochelle,
2700 habitants kilomètres carrés.
Tous ces trucs inutiles qu'on a dans le cerveau, toutes ces choses futiles, tous ces détails idiots. Pourquoi ils restent là? Pourquoi ils s'en vont pas? Tous ces souvenirs tenaces qui prennent de la place. Et la place de quoi?
Les trucs inutiles, chanté par Antoine Salaire et François Morel, paroles et musique d'Antoine Salaire.
Voilà, c'est une exception quand même.
Non, de temps en temps. En fait, avec Antoine, il écrit bien aussi, parce qu'il a beaucoup de talent. En plus d'être musicien, il écrit très bien. Je vous conseille son dernier disque qui s'appelle Le Hasard. Il y a des chansons, notamment une chanson sur son petit garçon, qui est absolument bouleversante.
Léon.
Ouais, Léon, le petit garçon.
C'est pas par hasard que si vous l'avez gardé comme musicien.
Bah, il m'a gardé aussi, lui.
Oui.
Ouais. On s'entend bien.
Et moi, je l'ai trouvé, pour mon bonheur.
Ouais.
Est-ce qu'on peut dire que ce goût de l'absurde qu'on entend un petit peu dans cette chanson annonçait le spectacle hommage à Raymond Devos que vous avez fait 2 ans plus tard, c'est-à-dire en 2018, François Morel ?
Je ne m'en rends pas compte, mais c'est vrai que Raymond Devos fait partie des gens qui m'ont inspiré. Je suis allé le voir sur scène plusieurs fois, donc il y a des influences comme ça qui nous échappent un peu, mais il fait partie des gens, oui, avec Vialat, avec Brassens, avec plein d'autres gens que j'ai écoutés, que j'ai réécoutés et qui sont en moi, oui.
Et ça a donné lieu donc à un spectacle quand même marquant.
Ouais, très marquant parce que j'ai joué plus de 350 fois. J'ai eu un Molière avec, donc j'étais très fier. Et puis je continue à le jouer. J'ai pas envie de l'abandonner. Et un soir sur deux, c'est Antoine Salaire ou Romain Lemire qui est un autre comédien chanteur.
Et donc ce spectacle de 2018, vous allez le reprendre à la Scala,
oui.
Dans la carte blanche qui vous sera donnée en juin prochain.
Oui, oui, oui. Et puis justement, on avait travaillé aussi avec Antoine pour déplacer certains textes de Devos qu'on connaît tellement bien que pour les faire entendre un petit peu autrement, par exemple « Quand ?» Pour quand, quelle heure, enfin, par exemple, on l'a adapté en chanson parce que ça marche bien aussi. Et puis c'est, Tout l'humour, c'est forcément musical, donc ça se prête bien à la chanson.
C'est drôle parce que c'est justement la chanson que j'ai choisie.
Oh bah alors.
Et vous ne le saviez pas.
Et non.
C'est pas prémédité. Donc quand, alors déjà il y a un sacré jeu de mots, mise en musique par Antoine Salaire sur des paroles de Raymond Devos. Et donc là, ça a été enregistré en 2017.
J'avais dit, pendant les vacances, je ne fais rien, je ne veux rien faire. Je ne savais pas où aller. Comme j'avais entendu « À quand les vacances ?»« À quand les vacances ?» Je me suis dit « Bon, je vais aller à Caen. » Et ça tombait bien parce que j'avais rien à y faire. Je boucle les valises, je vais pour prendre le car. Je demande à l'employé « Pour quand ? Quelle heure ? Pour où ?» Pour quand ?
Comment voulez-vous que je vous dise quand ? Si je ne sais pas où.
Comment ? Vous ne savez pas où est quand ?
Ben, si vous me le dites pas.
Ah ben, je vous ai dit, quand ?
Oui, mais vous m'avez pas dit où.
Pour quand ? Quelle heure ?
Pour où ?
Pour quand ?
Comment voulez-vous que je vous dise quand ? Si je ne sais pas où.
Parce que vous ne savez pas où est quand.
Mais si vous me le dites pas.
Je vous ai dit quand.
Oui, mais vous m'avez pas dit où.
Monsieur, je vous demande une petite minute d'attention. Je voudrais que vous me donniez l'heure de départ des cars qui partent pour Caen. Enfin, Caen. Dans le Calvados.
C'est vague, hein.
En Normandie. Mais ma parole, vous débarquez.
Ah, là où a eu lieu le débarquement, en Normandie.
Voilà, à Caen.
Prenez le car.
Il part quand ?
Il part au car.
Mais monsieur, le car est passé.
Ah, bah vous l'avez raté.
Je pourrais partir à 7 ou à 3.
Voilà, grâce à la musique d'Antoine Salaire, François Morel, vous faites vraiment redécouvrir les textes de Raymond Devos.
Ouais, enfin, tout n'est pas absolument musical, mais c'est vrai que je trouvais qu'on l'avait un peu oublié, De Vos, quand on parle des grands humoristes des années 70-80. Il y a toujours Coluche qui revient et Pierre Desproges, ce qui est très juste, mais il manque Raymond De Vos.
Il était plus ancien, lui, quand même.
Un peu, enfin, ouais. Jusque dans les années 70-80, même jusque dans les années 2000, il a triomphé quand même sur toutes les scènes. Et puis, dans tous les théâtres où on joue, les gens nous disent, c'est incroyable, parce que Raymond De Vos, il a joué ici, mais je crois qu'il jouait absolument partout. Et il jouait dans des petites salles de 400-500 places, et puis dans des beaucoup plus grandes salles, mais enfin, il a écumé le territoire. Ouais.
Mais de toute façon, c'est une école assez différente des autres humoristes dont vous avez parlé.
Pour moi, c'est l'école du musical aussi, c'est-à-dire aussi une école de la générosité. Puis pour moi, j'avais l'impression qu'on en faisait juste un monsieur qui faisait des jeux de mots, alors que c'est bien mieux que ça, quoi. C'était aussi quelqu'un d'extrêmement généreux. D'abord, il y avait deux parties, souvent dans ses spectacles. La première durait 1h30, la deuxième 1h. Et il était à la fois jongleur, musicien, enfin, il faisait tout ce qu'il pouvait pour nous embarquer dans son imaginaire.
Jean-Noël Jeannonès, vous l'avez connu, j'imagine, Raymond De Vos ?
Non, mais je l'ai apprécié. Il était contemporain du théâtre de l'absurde. Et au fond, c'est un artiste qui a transformé l'absurde en merveille, qu'il a transformé en presque en pédagogie de la beauté du civisme, d'ailleurs, et du civisme.
Ouais. Est-ce qu'il fait partie des gens qui vous honorent également ?
Oui, assurément. Oui, je l'ai inscrit dans ma petite liste que vous m'avez demandé de constituer. Oui. En y ajoutant effectivement Guy Béard, Jean Ferrat, surtout le chanteur, Jean Ferrat. Et puis derrière, tous ou presque tous, l'ombre majestueuse, magnifique du grand Louis Aragon. Aznavour aussi, mais à moindre degré.
Mais de toute façon, ils sont tous très différents. François Morel, je continue à dérouler le cycle de vos spectacles musicaux pour arriver jusqu'au dernier en date. Tous les marins sont des chanteurs, que vous avez créé en 2020. Donc au départ, enfin c'est une longue histoire, hein, donc vous allez pouvoir nous expliquer. Enfin, je vais d'abord lire quand même la version officielle, celle qui figure dans le dossier de presse. Feuilletant une vieille revue trouvée dans un vide-grenier...
François... À Saint-Lunaire.
Ah, ça c'était pas précisé, mais moi, je bien le dire. François Morel découvre les chansons d'un marin breton, Yves-Marie Le Guilvinec, disparu en mer en 1900.
Hélas.
Auteur inconnu, natif de Triavou, près de Saint-Malo, Le Guilvinec laisse à la postérité des poèmes tracés au calva, des lettres imbibées de tafia et une existence d'oubliée océanique.
Voilà. C'était un peu l'ennemi de Théodore Botrel.
Oui, j'ai l'impression.
Oui, Théodore Botrel était quand même plutôt parisien et avait
bien que natif de Dinan.
Oui, mais avait une connaissance un peu lointaine de la mer et de la Bretagne, alors que lui, il est resté toute sa vie en Bretagne, mais évidemment, il n'a pas fait carrière comme Botrel.
Jean-Noël Jeannonès.
Oui, j'ai beaucoup aimé ce spectacle et votre personnage rejoint d'autres éminentes personnalités que j'ai toujours saluées, celles qui n'ont pas existé et à qui un canular a donné vie. Ouais. Vous vous rappelez Égésip Simon, avant 1914, qu'on avait écrit à toutes sortes de parlementaires pour leur dire que Égésip Simon, précurseur de la démocratie, devait être célébré dans leur département. Et beaucoup sont tombés dans le piège. La lettre s'ouvrait sur une citation de Simon, « Les ténèbres s'éclaircissent lorsque le soleil se lève ». Ce qui est évidemment très, 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 très frappant. Et puis il y a Ronsard, et beaucoup plus récemment, que vous connaissez, François Morel, cet auteur si admirable qui a constitué le numéro 100 de la collection Écrivain toujours au seuil, qui était entièrement imaginaire et très amusant. Et comme beaucoup de critiques littéraires se sont pris au jeu, ou plutôt sont tombés dans le piège, pour être exact, et on dit effectivement, on a trop négligé Ronsard jusqu'à présent, assez vite un silence parmi le monde de la critique s'est établi autour de lui. Mais si vous retrouvez chez des bouquinistes, le Ronsard est numéro 100, ne manquez pas de vous l'approprier.
Très bien. Et puis Botulle aussi, non ?
Botulle, mais ça, je ne veux pas faire de politique contemporaine.
Ouais.
Jean-Noël Jeannonès, c'est parfait, parce que vous avez vendu la mèche. Maintenant, nous savons
Ah oui,
que...
c'est une imposture, c'est ça que vous voulez me faire dire. Ben, un petit peu quand même, oui.
C'est sorti de votre imagination, mais brillamment.
C'est sorti d'une demande de Gérard Mordillat. Et avec Odile Conseil, ils avaient créé un festival de cinéma et ciné-salé au Havre. C'était tous les films qui avaient un rapport avec la mer. Et ils m'avaient demandé de venir avec Antoine conclure ce festival. Et peu de temps avant, il me dit « Au fait, ça serait bien que tu chantes des chansons de marins ». Et je lui dis « Je suis bien embêté, mais je n'en ai pas dans mon répertoire ». Et il m'a dit « Bon, t'as qu'à chanter des trucs de Renaud ou de Hugo Frey. Et je me suis dit, oui, en effet, je pourrais. Et puis, ça m'a amusé. Donc, j'ai commencé à écrire des chansons. Tous les marins sont des chanteurs. Et j'ai donné ça très vite à Antoine, qui m'a fait une musique qui me plaisait beaucoup. On en a fait 2-3 pour ce moment-là, du Festival Ciné Salé. Et puis, Gérard Mordillat, dans une brillante improvisation, a parlé de Le Guy de Vinec. Et on s'est dit, il faut approfondir la question et en faire un vrai personnage.
Raconter la solitude, le vent qui souffle l'amitié, le mal de mer et l'inquiétude, le rhum qui fait tout oublier. Tous les marins sont des chanteurs, badadadiam, badiam, babam. Tous les marins sont des chanteurs, dadadadiam, badadiam, dadadiam. Pour décrire la fille au village qu'on a laissée un matin gris, la vaînée sans son corsage, doux souvenir de Tahiti. Tous les marins sont des chanteurs, la 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 la. Tous les marins sont des chanteurs, la 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 la. Pour emporter dans sa mémoire les tempêtes, la houle et le sel, pour espérer un jour revoir toutes les filles de La Rochelle. Tous les marins sont des chanteurs, la 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 diam, la diam, la bam, bam. Tous les marins sont des chanteurs, la 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 la. Que l'on se souvient de Mimi, Dédé et Jeannot, ces gars si fiers d'être marins qui ont péri sur leur rafio. Tous les chanteurs sont pas marins, dia-da-da-dia-ba-dia-ba-ba-ba. Tous les marins sont les chanteurs, dia-da-da-da-da-da-da-da. Chante fort et parfois faux, mais ça n'a aucune importance. On peut entendre leurs sanglots quand ils entament ma recourance. Tous les marins sont des chanteurs.
François Morel, en duo, je pense que nos auditeurs l'ont reconnu, avec Bernard Lavillier. C'était en 2020, Tous les marins sont des chanteurs, qui est à la fois la chanson titre et une magnifique présentation de ce spectacle, ouais, que vous avez conçu, François Morel.
Hélas, Bernard Lavillier n'est pas sur scène quand on joue le spectacle, mais on a d'autres éléments excellents, notamment Romain Lemire qui fait le conférencier, et Antoine Salaire est forcément au piano, il y a Muriel Gastebois, et il y a Amosma aussi sur scène.
Ça fait finalement plus de monde que d'habitude.
Ouais, on est 10 en fait, quand on se trimballe. Il y a 5 techniciens et 5 personnes sur scène, 5 artistes.
Finalement, ça marche très très bien, cette idée de faire des chansons de marins à la manière d'eux.
Ouais, je trouvais que c'était bien, les chansons de marins, parce que c'est des chansons pour se donner du courage. Et je trouve que c'est bien, en ce moment, d'essayer de se donner du courage. C'est des chansons pour être ensemble, qui parlent un peu aussi de solidarité, d'amitié, et donc autant de valeurs que j'aime bien mettre en avant.
Oui, ça, c'est une, un dénominateur commun de, ouais. Et je pensais, de votre inspiration. Ça.
En écoutant Bernard Lavilliers, quand il est venu dans le studio, on a pris un petit café avant, ensemble, avant qu'on enregistre, et on a parlé de chansons notamment, et il y a quelqu'un qu'on a oublié de citer, c'est Jean-Roger Caussimon. Et ça, j'ai aussi beaucoup écouté Caussimon quand j'étais jeune, et c'était à la fois un comédien et un chanteur, et il a eu une carrière de chanteur aussi sur le tard, et je trouve qu'il a écrit notamment des chansons. Mon camarade, par exemple, ce sont des chansons absolument bouleversantes et magnifiquement écrites.
Ça, je suis bien d'accord avec vous.
Ouais.
Faudra un jour que je lui consacre une émission.
Ah oui, avec Céline peut-être, avec sa fille.
Pourquoi pas,
ouais.
En effet. Et alors, sur cet album, Tous les marins sont des chanteurs, on trouve un duo avec Juliette, votre vieille complice.
Ouais. Et puis, c'est-à-dire, sur scène, moi, je fais le rôle de Juliette et Antoine Salaire joue mon rôle, oui. Là, elle fait la maman un peu autoritaire.
Mais c'est une chanson sur l'atavisme, un peu, en Bretagne, des campagnes de pêche. Qui, oui, finalement, ouais.
C'est pour dire aussi que les mères juives sont nées en Bretagne.
Donc cette chanson, en tout cas, s'intitule « Mère et fils », « M-E-R et fils ». Et puis vous chantez aussi « La Cancalaise ».
Mais oui.
Et moi, ça me fait penser, bien sûr, à la Paimpolaise.
Mais on dit même que
la
Paimpolaise de Théodore Botrel a été écrite en réaction à la Cancalaise d'Yves-Marie Le Guilvinec. Mais enfin, bon, il y a des débats. Je ne sais pas si tous les historiens seront d'accord.
Ils débattent, c'est le charme de leur métier. Mais vous voyez comme c'est riche, notre discipline. Vous arrivez vraiment à trouver la vérité.
Vous
offrez un exemple terrifiant.
Ouais, ouais.
Si on essaye.
Ouais.
Alors, au détour d'une chanson, vous abordez finalement des tas de thèmes très importants aujourd'hui, comme le sauvetage en mer, avec une allusion à l'actualité sur les migrants en Méditerranée, la fibre écologiste sur la disparition des poissons et des oiseaux, là, ça s'appelle « Plus rien que le sel », et puis de façon peut-être un peu plus légère, la description d'un bar de marins surnommé « À l'espérance ».
Oui, c'est tout ça. Moi, comme je vous disais tout à l'heure, j'aime bien le mélange des genres. Et avec ce personnage d'Yves-Marie Le Guilvinec, justement, on pouvait traiter de sujets extrêmement contemporains et puis être aussi rieur et léger.
Et qu'est-ce qu'il aurait dit de notre époque actuelle, Yves-Marie Le Guilvinec, d'après vous?
Je ne sais pas. C'est bien compliqué. Je ne sais pas s'il aurait quelque chose à en dire. Cela dit, il dit des choses, de toute façon, il continue à dire des choses, c'est ça qui est étonnant, parce que cet homme-là qui est mort à 30 ans en 1900, nous parle de sujets extrêmement contemporains. Ouais.
Et alors, il y a également d'autres chansons donc inspirées par lui, une chanson surréaliste sur le ventre de la baleine, que j'aime beaucoup, et puis une autre sur la pêche à la morue, ce qui nous donne l'occasion d'un nouveau duo avec votre musicien attitré Antoine Salaire.
Vient de débarquer d'une campagne en mer du Nord. Le bateau est chargé de thons de barre jusqu'au rabord.
Mais le capitaine y dit comme ça que les courgettes à la criée, que pour lui le compte y est pas
et qu'il nous faut réembarquer. Je n'irai pas à la morue, mon capitaine, je n'irai pas à la morue sans avoir courtisé Lulu.
Disant que si on doit enchaîner comme des galériens,
ce serait du fait qu'il y a la concurrence des Norvégiens.
Les Portugais sont à Terre-Neuve,
les Espagnols jusqu'aux Açores.
Qu'il fasse soleil ou bien qu'il pleuve,
faut faire du chiffre sinon t'es mort. Je n'irai pas à la morue, mon capitaine, je n'irai pas à la morue sans avoir embrassé Lulu. Ils savent pas ce que c'est qu'un mois sur l'océan.
Ils connaissent pas le froid.
Sont jamais vidés un flétan.
Je voudrais bien les voir à l'ouvrage.
Ils changeraient vite de chanson. Vider ses tripes au bastingage. Ça vous passe le goût du saumon. Je n'irai pas à la morue, mon capitaine, je n'irai
pas à la morue sans savoir marier.
La pêche à la morue. Alors là, on croirait vraiment une chanson de marin ancienne, hein, oui, François Morel.
Je crois que c'est Antoine qui l'a beaucoup retravaillé aussi. Ouais.
Finalement, c'est intéressant comme exercice d'écrire dans des styles imposés.
Je crois aussi que c'est le fait de se déplacer comme ça fait dire des choses qu'on n'oserait pas forcément dire en son propre nom. Je me méfie toujours d'écrire justement des chansons un peu trop politiques ou trop sur l'air du temps, où je dirais ce que je pense, parce que je pense pas que ce que je dis est forcément très intéressant. Donc j'essaie parfois de travailler plus la forme que le fond. Mais avec ce personnage inventé, ça nous permettait justement de parler de thèmes extrêmement sérieux, comme justement comme le sauvetage en mer, comme l'écologie, etc., et comment on considère la mer aujourd'hui qu'il faut défendre.
Et donc ce spectacle, François Morel, fera partie de la carte blanche que vous offre la Scala du 14 mai au 23 juin prochain, pour une reprise donc de 3 spectacles, Tous les marins sont des chanteurs, puis Le dictionnaire amoureux de l'inutile, et enfin J'ai des doutes, dont on a parlé, le spectacle autour de Raymond Devos, tout ça en partenariat avec France Inter.
Absolument.
Et où vous assurez chaque semaine une brillante chronique sur l'air du temps, inspirée
une
par...
Une chronique, en tout cas.
Ouais. Moi, j'ai le droit de dire brillant. Et qui, inspirée par vos... Parfois, vos colères, ou en tout cas vos... Votre sentiment par rapport à tout ce qui se passe ?
Ouais. Chaque semaine, c'est une question, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter vendredi ? Et puis jusque-là, j'ai réussi à tenir le micro chaque vendredi à 9h moins 3. C'est dans le fond un exercice que j'aime bien, parce qu'il me permet de savoir ce que je pense, donc ça m'intéresse.
Mais vous n'êtes pas le seul, puisque finalement, non seulement les auditeurs vous suivent régulièrement, mais en plus, vous avez réuni beaucoup de ces chroniques dans des ouvrages.
Ouais, ouais.
Ça veut dire qu'elles peuvent traverser le temps.
Je sais pas, c'est ce que me disent les gens qui aiment bien acheter ces livres-là. Je suis assez content. Je pense aussi que le fait que je sais maintenant que les livres vont sortir, ça me fait travailler un peu plus le style. J'ai l'impression qu'à une époque, je faisais plus des personnages, des choses comme ça. Et je me suis dit, les personnages, c'est moins intéressant. En tout cas, si on m'entend pas, si on me voit pas, c'est un peu, on perd beaucoup de choses. Donc peut-être que je travaille un peu plus le style écrit maintenant.
François Morel, on va se quitter pour aujourd'hui. Je voudrais rappeler que en 2021, pour le centenaire de la naissance de Georges Brassens, vous avez également enregistré un album avec Yolande Moreau, Brassens dans le texte. Vous entremêlez les reprises de textes dits et chantés.
Ouais.
Et d'ailleurs, il y a eu un spectacle aussi en hommage à Brassens que vous avez créé à 7.
Qu'on a fait 6 fois, mais là c'était avec un autre casting. Il y avait notamment Judith Chemla et Juliette, Thibaut de Fever. Lucrèce Sacella, Antoine Salaire, bien sûr, et je crois qu'il manque quelqu'un, et Amosma. Et oui, c'était un hommage pour les 100 ans de Brassens, mais c'était vraiment autre chose par rapport à ce qu'on a fait avec Yolande.
Oui, mais c'est passé la même année. Oui,
bah, voilà. obligé, les 100 ans.
Et Jean-Noël Jeannonet, je rappelle le livre de chansons que vous avez publié, Chansons pour mémoire, que nous détaillerons largement dans la prochaine émission. Et donc, je vous remercie beaucoup, François Morel, Jean-Noël Jeannonet, d'être venu au micro de Tour de Chant. Donc, on se retrouve dans une semaine dans Tour de Chant.
Avec plaisir.
Je m'en réjouis. À l'avance.
Tour de Chant, une émission de Martin Penney, avec le concours de Élise Kravets à la préparation, Manuel Couturier à la technique, Doria Zénine à la réalisation.
À réécouter sur francemusique.fr.